Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Star Trek pour les nuls, le podcast. Aujourd'hui, c'est une émission très particulière, tant dans la forme que dans le fond, puisque nous sommes dans ma salle à manger, et que mon invité se tient juste à côté de moi, et qu'il s'agit d'une personne très proche, puisque tu es Lali.
Je suis Lali,
et Lali, c'est ma sœur.
Voilà.
Bonjour Lali. Ça va ?
Ça va très bien, merci.
Cool. Alors, il y a quelques jours, sur Facebook, en fait, est remonté sur mon fil d'actualité via les souvenirs, un souvenir dans lequel je poste l'annonce pour recruter du monde avant de fonder ce que sera Star Trek pour les nuls. Et j'ai vu s'afficher un commentaire de ta part qui disait « Oui, moi j'aimerais bien... Je sais plus ce que tu dis. »
Je sais plus ce que j'ai dit, ouais. Mais ça m'intéressait surtout de passer un bon moment avec toi, mon frère, et de regarder un peu Star Trek parce que je connais pas trop, du tout même, juste le super beau gars qui joue dedans dans les années 2018-19, je suppose. À part ça, rien du tout. Et le signe, le signe avec les doigts, que j'ai du mal à faire, mais que je fais.
On te prendra en photo, elle, en train de le faire. Mais tu as vu les films ou
non,
les récents, ou tu as juste vu quelques images
Non, j'ai vu un récent, un seul récent, où c'est que... Ils se rencontrent pour la première fois, celui avec les oreilles pointues là, et le futur capitaine qui n'était pas encore capitaine.
Kirk.
Voilà, Kirk. Donc
c'est le film de 2009. Voilà. Okay. Alors là, aujourd'hui, je te l'ai déjà prévenu, on ne va pas du tout regarder ça. Ça n'a rien à voir.
Dommage.
En fait, dans ce podcast, on cherche à savoir quelle serait une des entrées idéales. Dans l'univers qu'est Star Trek. Donc on avait commencé avec les films, on a fait un podcast dessus, et les personnes qui ne connaissaient pas disaient que c'était des chouettes films, mais que on comprenait pas vraiment pourquoi on nous parle d'esprit trekkien de Star Trek, parce que ça a plus de 50 ans, Star Trek. C'est une très très vieille série qui date des années 60,
un peu comme Fantomas.
Ouais, non, mais Fantomas ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté.
Oui,
Star Trek, ça existe toujours.
C'est vrai.
Et du coup, en fait, donc les films de les films récents sont bien sur plein de plans, mais en fait, ils représentent pas forcément très bien l'esprit de ce qu'est Star Trek. On a regardé une autre série avec une des personnes qui s'appelle la série Enterprise, qui date des années 2000, et avec Scott Bakula, tu sais, le mec de Code Quantum.
Ah ouais, cool.
Après avoir fait Code Quantum, il a fait Star Trek.
D'accord.
Et apparemment, cette série est une super bonne porte d'entrée.
D'accord.
Mais aujourd'hui, en fait, on va parler de la série Next Generation, qui est une série.
Enterprise, c'est le
nom du vaisseau spatial. En fait, si tu veux, c'est comme.
C'est une entreprise, en fait.
vous savez, voilà, l'humour, c'est familial. Tout le monde me reproche mon humour dans ce podcast.
C'est familial.
Voilà. Et en fait, les vaisseaux spatiaux, ils ont repris le même thème que pour les vaisseaux de la marine américaine et anglaise. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, quand tu mets un terme à un navire, quand tu en crées un nouveau, il reprend souvent le nom de l'ancien.
Oui.
Parce qu'il reprend
d'accord.
les mêmes missions ou le même genre de trucs. Donc, tu as eu un premier Enterprise qui est parti dans l'espace, puis un deuxième, puis un troisième.
D'accord.
Bref. Et donc, la série Next Generation, qui est une série de la fin des années 89. Qui a été la série la plus populaire, en fait. Il y a eu la série originale en 3 saisons, dans les années 60, puis ils ont fait 3 films, puis ils ont lancé cette série, et cette série, en fait, c'est vraiment, on peut assez facilement considérer que c'est la série qui a vraiment explosé et qui a lancé.
Alors,
les gens.
C'est pas celui aux oreilles pointues, c'est pas celui qui joue dans Heroes qui va jouer là.
Non,
d'accord.
Non. Alors, Spock, en fait, c'était dans la série originale,
c'est
son
vrai.
Personnage. Et là, dans la série télé, le capitaine s'appelle Jean-Luc Picard, et il est français, et il est joué par Patrick Stewart, ça te fait rire. Ça fait pas très spatial,
ouais,
c'est
non.
ça. Voilà,
je le vois plus sur un bateau, tu
voilà,
vois,
exactement.
En train de pêcher.
Jean-Luc Picard est français et il est joué par Patrick Stewart. Patrick Stewart, tu as vu les films X-Men ou pas?
Oui.
Et bien, c'est le professeur Xavier.
Ah, Ah oui, je vois.
Voilà,
ça.
Avant de faire X-Men, il faisait
je
ça.
Je vois, ouais, ouais.
Bon, il a fait beaucoup, beaucoup de choses.
Mais oui, je vois bien, oui.
Et, mais d'ailleurs, en parlant de ça, avant de lancer les épisodes, est-ce que, bon, tu connais pas Star Trek, mais quel est ton... Qu'est-ce que... Quelle est ta position? Comment tu te positionnes par rapport aux films et aux séries de science-fiction? Est-ce que tu... C'est quelque chose que tu apprécies particulièrement? Pas du tout? Est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes pas? Est-ce que je... Bon, on a... Au final, attends, juste, excuse-moi de te couper. Pour les auditeurs, on a quand même pas mal d'écart. On a 7 ans d'écart. Donc en fait, on se connaît, mais culturellement, on n'a pas forcément... On a parlé Goonies ensemble. Et Mary Poppins.
Et la famille Adams.
Et la famille Adams.
On n'a pas vécu ensemble. Je suis partie très vite et tu étais encore jeune.
Ouais.
Donc et... on n'a pas...
Ouais, on ne regardait pas les mêmes cassettes vidéo.
Non, pas tout.
Terminator 2.
Du temps en temps, ouais. Mais pas toujours. J'ai pas trop de... On n'a pas... Non, on n'a pas trop de souvenirs ensemble, là, parce que 7 ans d'écart, c'est pas rien, quoi. Mm. Voilà.
Non, c'était pour dire qu'au final, enfin, on n'a pas les mêmes références culturelles.
Voilà. Déjà, en 7 ans, la culture est différente. Donc, enfin, au niveau du... Voilà, ne serait-ce que... des bouquins ou des films ou de la musique, y a déjà une grosse différence. Ça fait presque 10 ans, hein, donc,
ouais.
Donc forcément, ça va vite, quoi.
Korn était bien à ton époque, et puis Korn est devenu nul à mon époque.
Moi, j'écoutais plus à ton époque. Voilà. Mais après, bon, ça c'est... Hein. Mais après, par rapport aux séries de science-fiction, moi, j'étais pas dedans, c'était pas un truc qui me plaisait forcément il y a quelques années. Et puis, je m'y suis intéressée par le biais de mon ex-copain, parce que je voyais que toi ça t'intéressait vachement et parce que j'avais des gens autour qui s'y intéressaient aussi et que je voyais que ça, tout le monde, ça plaisait à toute forme de gens en fait, peu importe je sais pas comment on peut dire, mais tous les gens de différentes de différents esprits, quoi. Enfin, je sais pas comment on peut dire, mais n'importe quelle personne, tout le monde adhérait était d'accord sur le même truc. Donc je me suis mis à les regarder, sur tous les Marvel, ce que j'ai adoré, tout ça. Et ensuite, Star Trek est venu, et voilà. Et en fait, je me suis mise à vraiment bien aimer, alors que je prenais ça à la rigolade et que je trouvais que c'était pour les gosses. Et en fait, aujourd'hui, j'ai 35 ans et j'aime beaucoup. Franchement, mais j'aime beaucoup.
En plus, tu m'avais parlé de Suicide Squad, que tu aimais énormément.
J'ai beaucoup aimé Suicide Squad. Et en fait, je me suis rendue compte, je me suis prise au jeu toute seule, parce que je me suis rendue compte que je me suis intéressée à chaque héros, en fait. À chaque chaque personnage et quand on rentre dans la vie de chacun, et ben j'en parlais il y a 2 minutes, Wonder Woman, ça m'a vachement intéressé de voir le créateur, qui l'a fait, comment ça s'est passé, tout ça. Il y a 3 ans de ça, je t'aurais dit mais que je m'en fous, tu vois, de Wonder Woman, un truc à la con. Batman, je trouve ça super intéressant, de l'évolution de chaque et en fait c'est très très vieux. Ça date depuis très longtemps et ça tient le coup et c'est pas pour rien. Et ça plaît à tout le monde.
Ouais.
Voilà.
Bah écoute, je te propose qu'on regarde.
Ok.
Alors, pour les auditeuristes, pour faire la sélection des épisodes qu'on va regarder aujourd'hui, je me suis basé sur les votes qui sont sur les forums de la communauté francophone de Star Trek et Ultime Frontière. Ce sont les deux gros forums de population francophone. De Star Trek. Et en fait, ils listent tous les épisodes, les deux forums, ils listent tous les épisodes, et sur chaque épisode, tu peux donner ton avis et le noter d'une note allant de 0 à 10.
D'accord.
Donc, j'ai pris la première saison de TNG et j'ai pris les 4 épisodes sur lesquels il y avait le plus. Les votes étaient les plus élevés en faisant la moyenne des deux sites. On va pas regarder les 4 épisodes parce qu'on n'aura pas le temps. Ce serait bien qu'on en regarde 2 ou 3. 2, je pense que ça va passer. 3, ce serait bien. Donc, on va commencer par l'épisode 6, Where No One Has Gone Before. Puis, on va enchaîner avec l'épisode 13, Data Lore. Et l'épisode 20, Earth of Glory. En sachant que le quatrième épisode aurait été l'épisode 23, Skin of Evil, qui est mon favori de la première saison. Mais c'est comme ça.
Dommage. Dimanche prochain, peut-être.
Ouais. on va la faire à la Drucker vivant dimanche prochain.
Ouais.
Ben je crois que j'ai plus rien à dire, c'est parti.
C'est parti.
Allez. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Star Trek pour les nuls. Bien, okay. Nous y revoilà.
C'est alors, branché.
Ouais, ça y est. Tout marche bien, Navette. Alors, c'était comment? On a regardé. Ouais, vas-y.
C'était bien, c'était très bien. Moi, j'ai bien aimé. J'ai préféré le second, donc, qui était vachement plus prenant que le premier. Maintenant, c'est vrai que c'est vieux. C'est super vieux. C'est super mal fait comparé à maintenant. Mais non, c'était sympa. Ouais, c'était bien.
Alors, on a regardé Where No One Has Gone Before, le sixième épisode, et le treizième épisode, Data Lore. Donc, c'est la première saison, en fait, si tu veux, ce que tu disais par rapport au fait que c'est vieux. Le début de la série Star Trek Next Generation est souvent considéré comme kitsch, parce qu'elle est vraiment... visuellement, c'est vraiment la transition des années 80 et des 90. C'est vraiment quand on a commencé à arrêter d'utiliser des couleurs flashy, des costumes un peu machin. Ça, c'est, là, c'est ce que tu vois. Mais plus la série avance dans le temps, il y a 8 saisons, hein, donc il y a 8 ans. Et plus la série avance dans le temps, moins c'est kitsch et visuellement, ça devient de plus en plus beau. Le costume, le maquillage de Worf, là, le Klingon, il est dégueulasse au début, mais plus ça va dans le temps, plus il est réaliste et plus il est beau, plus il est fin et moins grossier.
Plus il y a de moyens, quoi.
Et après, bon, il ne faut pas oublier que on parle dans les années 80-90, la HD n'existait pas. Donc en fait, quand tu regardais ça sur ton écran cathodique, les couleurs étaient un peu baveuses, donc c'était pas trop grave.
Mais ça fait vraiment
c'est maintenant que ça nous fait bizarre.
Même le maquillage du Data, là, il est pourri, quoi.
Ouais, un peu.
Bon, après, ça va avec le temps, quoi. Ça va avec les années 80, quoi.
Les années 80, c'était pourri.
Ben non, mais c'est-à-dire, il n'y a pas les effets spéciaux, le super, l'argent qu'il y a aujourd'hui pour faire des super maquillages, pour faire des super...
C'est parce que c'est pas les...
C'est on a évolué façon. Quand même.
Tu te souviens quand on parle des Goonies
Je l'ai en Blu-ray.
Ben, tu l'as regardé à la télé?
Ouais, je l'avais regardé, pas cette fois-là, mais...
Sinon, ça t'a pas fait bizarre, le costume Il a un maquillage assez parfait, mais... Il y a ce truc bizarre en fait. Mais
moi, c'est plus sur le son, c'est que je m'arrête là. La famille Adams qui est passée il n'y a pas longtemps, que j'ai re-regardé, même si je connais par cœur. Et les Goonies, le maquillage, c'est vrai que j'ai pas trop fait gaffe parce que j'ai la télé qui va avec. Alors peut-être que c'est peut-être.
Parce que là, sur le Blu-ray des Goonies, je trouve que Sinoc, on voit que c'est un mec avec un maquillage. Alors qu'à l'époque, quand on regardait sur une télé un peu dégueulasse. Ben, tu voyais un mec bizarre. Tu vois ce que je veux dire?
Ah oui,
je pense que c'est le même genre d'effet. T'avais plus d'impression parce que l'image n'était pas parfaite. Du coup, le maquillage n'était pas parfait, mais c'était pas grave.
Ouais. Moi, j'ai toujours eu l'impression que Sinoc, c'était un vrai handicapé, tu vois. Ouais. Il était super bien fait, même avant, quoi. C'est vrai. Hein.
Ok. Alors, en fait, ça, c'est deux épisodes. Ce sont les deux épisodes qui ont été le mieux notés de la première saison de TNG, de cette série. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était deux épisodes assez représentatifs de ce qu'est l'univers Star Trek, en fait. Dans le premier... je sais pas comment expliquer.
Mais non, ça m'a choqué parce que pour moi, Star Trek, c'était vraiment que avec le Spock.
Oui, c'est vrai, ça, on en a pas parlé.
Et là, on voit pas du tout un gars de Vulcain, quoi. Et pour moi, vraiment, le Star Trek, c'est Spock. Je sais pas pourquoi.
Alors, c'est justement un des trucs certains fans qui n'aiment pas les nouveaux films s'offusquent parce qu'en fait. C'est une vision très, très Hollywood du présent, ça. En fait, quand les films ont été refaits, donc il y a 3 nouveaux films qui ont été refaits par J.J. Abrams, il a centré son histoire sur les personnages et sur le fait qu'ils soient limite déifiés. C'est des surhumains, c'est des survulcains. Spock, c'est le meilleur des vulcains. Kirk, c'est le meilleur des humains. Ils ont à peine 20 ans, ils ont déjà leur vaisseau spatial. Alors que dans la série originale, ils ont une trentaine d'années déjà. Enfin bref. Et en fait, ça va plus plutôt à l'encontre de ce que voulait dire Roddenberry quand il a créé cette série. Et en fait, la série donc, TNG prend part 200 ans après cette histoire, après la série originale, et pas 200 ans, 100, 80 ans, pardon, je dis des grosses bêtises, 80 ans après. Et en fait, c'était un des propos de Roddenberry quand il a recréé TNG, c'était ce qui est important, c'est pas les personnages, c'est les histoires qui racontent. En fait, TNG, Star Trek, ça raconte l'humanité à son apogée, là où elle est le mieux. Et elle est censée être la plus performante possible. Et justement, c'est pour ça qu'on est plus censé être centré sur des personnages qui sont capables, mais sur un ensemble de personnages qui sont capables.
Sur l'humanité qui est
unifiée, c'est pour ça que Picard, ça t'a fait beaucoup rire, mais il est français, parce qu'en fait, on s'en fout qu'il soit français. Ouais. Ça t'a beaucoup fait rire aussi de voir un homme avec une jupe.
Oui.
Parce qu'en fait, c'est pas clairement dit, parce que c'était les années 80, 90, donc c'était compliqué de dire ça à la télé, mais dans Star Trek, le genre et le sexe, on s'en fout.
On s'en fout, ouais.
C'est pour ça qu'on peut voir des hommes en jupe, on voit des femmes en pantalon. Dans le premier pilote des années 60, il y a une femme en pantalon sur la passerelle. Et ça, quand ils ont présenté ça au studio, les studios ont dit non, c'est pas possible. Oui, oui. C'est totalement irréaliste. Bref. Et on aime bien le raconter tout le temps, mais on s'en... Enfin, ça fait partie de l'histoire de la télé. Et je sais plus où je voulais en venir avec tout ça. Et oui, donc au Spock, on le voit plus parce que on voit aucun Vulcain. Vulcain dans les épisodes qu'on a regardés, mais on en voit très peu dans TNG parce que justement, c'était une des recherches des producteurs de faire dire aux gens. Bon, on a vu ce qu'étaient les Vulcains dans la série originale et dans les films. Maintenant, on voit d'autres pans. Donc, on voit, dans cette série, on va beaucoup développer ce que sont les Klingons.
Ouais.
Bon, là, dans les deux épisodes qu'on a regardés, on
ne
le voit pas.
Pardon, je te coupe, mais dans ce que j'avais vu, là, les derniers donc, qui sont sortis, les Klingons, c'était pas des sympas, quoi.
Non. Parce qu'il y a eu...
Ils se battaient contre eux dans le film.
À l'époque, à l'époque du film et donc de la série originale, la Fédération des Planètes Unies et les Klingons sont en guerre.
Parce qu'ils font tout péter. Mais
il y a plus de 80 ans qui séparent ces deux époques. Et en fait, entre-temps, la Fédération et les Klingons ont fait la paix. Et Worf, en fait, fait partie d'un programme de... Alors, non, Worf, c'est un peu compliqué parce qu'il a été adopté par des humains. Mais ils sont en train d'établir des programmes d'adaptation pour former des équipiers Klingons et humains.
Ils
n'avaient
pas fait brûler la planète Klingon Ils n'ont pas fait péter la planète Klingon dans le film, il me semble, non?
Alors dans le film de J.J. Abrams, Vulcain explose.
Vulcain explose au début, mais pas non, le Klingon non plus.
Kronos, non. Alors Kronos, dans le sixième film de la saga originale, c'est un peu compliqué à expliquer. Ouais. Dans le sixième film, il y a une des lunes de Kronos qui explose, ce qui fait que les Klingons n'ont plus les capacités d'être en guerre contre la Fédération. Donc ils demandent un cessez-le-feu qui aboutira sur un traité de paix.
D'accord.
C'est pour ça qu'en fait, les deux... Dans cette série, les Klingons sont en paix avec les humains. Okay. Donc, là où je voulais en venir. Dans le premier épisode qu'on a regardé, donc, on va faire un résumé très rapide. Dans Where No One Has Gone Before, il y a un mec qui débarque sur l'Enterprise, qui dit « Ouais, j'ai les capacités de vous transporter très loin, très rapidement, laissez-moi trifouiller votre vaisseau. » Et on le fait. Ils le font, ils traversent trois galaxies, ils sont complètement paumés, ils essayent de revenir, ils vont encore plus loin, ils se perdent encore plus loin que le cosmos, dans une zone où l'espace et les pensées ne font qu'un, et donc les pensées des membres d'équipage se matérialisent sous leurs yeux. Puis ils finissent par revenir grâce à un alien, un extraterrestre qui a des capacités extrasensoriel qui permet de transporter les gens très rapidement. On s'en fout, c'était pas là où je voulais en venir. C'est un épisode assez important. Je comprends pourquoi il est assez bien noté, parce qu'en fait, Star Trek est jugé régulièrement sur trois critères. Le premier d'entre eux, c'est celui-là, c'est la science-fiction pure et dure, brute.
D'accord.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passerait si on pouvait dépasser la vitesse de la lumière, qu'est-ce qu'on trouverait, où est-ce qu'on irait, machin. Donc là, ils trouvent des trucs très étranges où, voilà,
c'est complètement... Ce qui se passe, quoi.
Pour nous, c'est...
Ce qui s'est passé, c'est beaucoup plus impressionnant que dans l'autre épisode, bien sûr.
Voilà.
Il y a eu beaucoup plus de choses... fantastique.
C'est, ouais, voilà. Mais exactement. Pour nous, c'est complètement inimaginable. C'est pas possible de se dire qu'un endroit où l'espace et les pensées sont unis, c'est complètement impossible. Et ça, c'est de la hard SF pure et dure. C'est voilà. Donc ça, c'est un épisode qui a beaucoup plu parce que voilà, c'est de la science-fiction pure et dure. Donc ça plaît beaucoup aux collectionneurs de vaisseaux qui connaissent par cœur les schémas de l'Enterprise. Il y a plein de petits vaisseaux qui existent, ou des maquettes.
Ah ouais,
parce qu'ils ont fait des centaines et des centaines de vaisseaux dans cette série. Et donc, il y a plein de collectionneurs qui aiment ça. Et il y a des fiches techniques détaillées des vaisseaux spatiaux.
Ça, c'est fou, ça.
Qui existent. Et voilà. Et ça plaît à ce genre de personnes.
Ouais.
Ensuite, il y a l'épisode Data Lore, dans lequel Data retrouve sa planète d'origine et il retrouve son frère jumeau, qui est son grand frère, en fait, qui s'appelle Lore. Lore prend sa place, bataille,
et voilà. Il y a beaucoup moins de science-fiction.
Il y a beaucoup moins de
noté. Exactement. Enfin, je pense qu'il a eu moins une bonne note, quoi.
Non, il est aussi très très bien noté. Ah, ouais. Là, c'est vraiment ce sont les deux épisodes les mieux notés. D'accord. De la saison 1. Okay.
Et après, c'est quoi la seconde note, alors, sur...
Et alors voilà, la seconde des trois parties, c'est les épisodes centrés sur les personnages.
D'accord.
Ce que fait J.J. Abrams, mais qui n'est pas apprécié. Et alors c'est là que je trouve ça intéressant, c'est parce qu'en fait c'est clairement un épisode où on en apprend sur l'histoire des personnages. Mais
Le 1 ou le 2, tu parles du premier qu'on a vu, tu parles?
Du deuxième, là, avec les androïdes. Qui se remplacent l'un l'autre. On en apprend sur l'histoire de Data, on en apprend sur l'histoire de Lore, mais en soi, l'humanité n'est pas particulièrement parfaite. T'as bien vu quand tu t'es énervé contre Picard parce qu'il criait contre Crushley.
Surtout qu'il ne s'est même pas excusé ni rien.
Ouais, ça on va y revenir dans 3 minutes. Et en fait, moi, c'est le genre d'épisode qui ne me plaît pas trop, mais qui plaît beaucoup parce que on en a. Prend sur les personnages. Donc on apprend leur histoire, on les voit interagir entre eux. Et ça, c'est des épisodes qui plaisent à beaucoup de monde.
Mais moi, c'est celui qui m'a plus plu des deux. Quoi.
Ouais, mais après, c'est tout à fait compréhensible parce que c'est compréhensible. Et de toute façon, dans un ensemble de. Quand tu as 8 saisons, si tu connais pas tes personnages grâce à ce genre d'épisode, tu peux pas développer 8 saisons. Et après,
je pense que c'est pour ça, ouais. J'ai compris qui c'était ce gars, et tout à fait. C'est pour ça peut-être que je l'ai préféré, ouais.
Et après, il y a le troisième pan de Star Trek, c'est la critique sociale. Et ça, c'est ce que moi je préfère le plus. C'est des fois, là on l'a pas eu, c'est dommage. Remarque, on l'a un petit peu avec Wesley, justement. La critique sociale de les enfants, on les écoute jamais quand ils parlent.
Ouais, il l'a dit, ouais.
En fait, souvent, Star Trek utilise la science-fiction pour critiquer socialement
passer les messages, quoi.
Y a un super épisode dont on parle souvent dans les micros de Star Trek pour les nuls que vous pouvez écouter toutes les 2 semaines sur parlantrek.com. qui est un épisode dans lequel l'Enterprise rencontre une espèce qui n'a pas de genre. Et Riker, le numéro 1 là, de l'Enterprise, tombe amoureux d'une des personnes de cette planète, et en fait la personne lui dit qu'elle se considère comme une femme, et ce qui est totalement impossible sur cette planète, c'est totalement voilà. Et en fait, c'est un épisode qui permet de parler du transgenrisme, voire même de l'homosexualité ou de la pansexualité. Et ils font passer des messages comme ça de manière magnifique parfois.
Alors que c'est quand même dans les années 80 et c'est pas
encore aujourd'hui. Et surtout que là, en l'occurrence, ils avaient pris une actrice pour jouer ce personnage, mais à la base, le personnage qui joue Riker avait demandé que ce soit un homme qui joue le personnage, mais on lui a dit que c'était pas possible, c'était trop. Enfin bref. Et donc voilà, ces trois critères là qui définissent un peu ce qu'est Star Trek et de manière générale la bonne SF.
Les notes, quoi.
Voilà, c'est là-dessus que se basent les notes. Et voilà.
Donc tu veux savoir combien j'ai noté ?
Ah oui, tiens. Ah oui. Mais sans... Ouais, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Le premier épisode, l'épisode où tu disais tu t'es
niveau,
un peu fait chier.
Science-fiction, comme t'as dit, moi, je trouve que... Ouais, par rapport au second, c'était vachement plus fantastique. Donc, il y avait vachement plus de trucs. Donc là, tu peux mettre carrément du 8 sur 10, je pense. Après, je vais pas aller au-delà parce que c'est quand même bien, bien pourri comparé à aujourd'hui. Mais bon, c'est normal. Ensuite... au niveau du... C'était quoi déjà le second c'est...
les humains.
Oui, voilà, le social, quoi. Le social. Moi, j'ai trouvé que... oui, il y avait ce caractère de monsieur je sais tout, là, je viens vous apprendre tout, qui m'a gêné, tout ça un peu. Donc, c'était vachement marqué. Et ça, c'est vraiment typique des humains, là, qui se la pètent et qui viennent... Moi, je sais ceci, moi, je sais cela. Et qui, en fait... ne sont rien du tout, on est tous pareils, ouais, et voilà, bien. Donc c'est vrai que ça a bien, bien démontré tout ça, donc oui, c'est vrai que c'est un épisode qui mérite quand même une bonne note, je sais pas, en tout, plus le reste à côté, c'est une note, les trois catégories sur 10, ou c'est...
Non, mais chaque... en fait, moi, c'était juste, je voulais t'expliquer en fait comment les gens percevaient la série de manière générale.
Non, mais oui, tu peux mettre...
mal exprimé. Mais
non, mais comment je peux la noter dans ma tête? Non, je vais pas aller jusque là, alors je vais dire une bêtise, mais j'ai dit 8 sur 10 au départ, mais non, je vais pas dire ça, parce que comparé à l'autre, je vais dire 8 sur 10 pour le second et 7 sur 10 pour le premier.
D'accord.
Ouais.
Donc t'as quand même vachement
aimé. Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs je vais essayer de regarder pour comprendre, parce que deux épisodes comme ça, j'étais paumée quand même. Mmh. Mais ça m'a accrochée. Donc, plus le second, le premier j'ai fermé les yeux 2 minutes quand même. À un moment donné, je me suis un peu endormie, quoi.
Bah, bon, en fait, j'ai rigolé, j'ai voulu te toucher le bras pour rigoler avec toi et tu dormais.
Voilà, ah, ouais, c'est pas la... Bon, voilà, ça prouve que bon, mais après je trouve que il y avait ce côté fantastique qui me plaisait. Bon, voilà, moi ça me plaît, je suis bien contente d'avoir vu ça, mais je pense qu'il faut vraiment que je voie depuis le départ pour comprendre. Voilà, c'est tout.
Ok, alors après j'ai... Je voulais pas te faire regarder le tout premier épisode de la série, de cette série, parce qu'on en a déjà parlé dans le podcast, et les résultats étaient pas terribles, parce qu'en fait, c'est un épisode très très complexe, où justement, il est en deux parties, donc il est long déjà, il fait 1h30, et... il est très complexe et puis le rythme est particulier. Enfin, c'est un épisode pilote assez, assez pourri. Et je voulais pas non plus te faire regarder le deuxième épisode parce que c'est un très très mauvais épisode de Star Trek qui est un des pires épisodes qui a été fait.
Donc tu m'as montré les meilleurs de cette saison.
Selon beaucoup de monde. Et du coup, je me suis dit, ben, on va pas commencer par le troisième non plus. Et j'ai regardé, en fait. C'est pour ça que j'ai choisi on aurait pu prendre d'autres épisodes, mais c'est vrai qu'après, si ça t'a encouragé à regarder la série, je suis très content.
Vraiment, pas pour te faire plaisir, et c'est vraiment sérieux.
Mais de toute façon, t'as tout disponible sur Netflix.
Ouais, voilà. Il faudrait que tu me dises exactement ce que c'est, mais
tu t'as
j'ai vu qu'il y en avait plein.
Mais... Oh, y a plein de séries, je te dirai. Alors, c'est la première fois que je regarde la série en français.
Ah,
c'est très particulier.
Les
voix sont très très particulières.
C'est-à-dire tu regardes en sous-titré à chaque fois.
En version originale, mais Jean-Luc Picard, il a une voix super grave. Il parle, tu l'écoutes, quoi. Riker, ça va.
Mais je trouve qu'ils auraient pu lui donner au moins la voix de qu'il a dans.
X-Men,
quoi. Parce que là, il a une voix qui est pas crédible avec son corps et qui est pas crédible avec son personnage. Alors, il fait un peu.
Après, X-Men a été fait beaucoup plus tard, donc.
Oui, bien sûr.
tu peux pas leur dire, oh, dans 20 ans, c'est lui qui le fait.
C'est vrai, ouais. Mais enfin, ils auraient pu, comme c'est quand même un personnage qui a du charisme, ils auraient pu mettre une voix appropriée, quoi.
C'est un peu particulier.
Après, moi, on l'a regardé en français parce que c'est vrai que moi, j'ai du mal avec le sous-titré.
C'est pas un souci. Hein.
Et bon, j'essaierai pour voir un épisode.
Après, franchement, sur le premier épisode, ça m'a vachement surpris, mais dès le deuxième, ça allait mieux. Je suis passé. Surtout que dans les années 80, ils doublaient, ça collait bien aux lèvres, ça collait bien au sens. C'est pas les doublages d'aujourd'hui.
Non, mais je vais voir la voix qu'il a pour voir si c'est sympa, je le regarderai.
Donc à un moment, on a parlé de Wesley Crusher, donc le petit garçon.
Mm-hmm.
Enfin, petit garçon, le garçon, l'ado.
Le stagiaire.
Que tout le monde déteste Il se fait insulter par tout le monde. Enfin, t'as remarqué, dès qu'il dit quelque chose,
ah, oui,
Riker
oui.
l'écoute pas.
Oui, oui, oui.
Y a...
C'est-à-dire que oui, il veut.
Il y a Picard qui lui dit fermez l'accrocheur.
Ah ouais, ça m'a choqué. Bien.
Et alors, ça, c'est.
Et même, tu vois, c'est une réplique qui m'a choqué par rapport aux années 80 et au début. Enfin, pour ce genre de série, ouais. Une réplique comme ça, c'est hyper.
Wesley. Et ça, c'est assez génial parce que justement, ben, ça va à l'encontre de ce que je te disais tout à l'heure, de l'humanité qui a évolué. Évolué, qui a atteint son paroxysme. Jean-Luc au début de la série, en fait, il dit clairement qu'il, quand il est affecté à l'Enterprise, il dit qu'il n'est pas à l'aise avec les familles, qu'il n'aime pas les enfants et que ça le rend très mal à l'aise. Et en fait, il déteste les enfants. Et ça, c'est un gros problème parce que ben, c'est pas normal pour un humain qui est censé être évoluer, de détester les enfants. Et ça, en fait, c'est quelque chose, c'est un espèce de fil rouge tout au long de la série. Plus ça va, plus ses relations avec Wesley s'améliorent. Et au final, ils deviennent très très amis, très proches.
Après, c'est pas le seul, hein. Les autres, ils sont pas très très cool non plus.
Non, Riker aussi, il en a rien à foutre, il écoute pas. Et ça, c'est quelque chose qui est développé sur le long cours de la série, dans lequel on n'écoute pas les enfants.
Mais pourtant, on leur donne une place puisqu'il est accepté, il est là, il est dans les commandes dès le départ.
Quand on l'écoute, on se rend compte qu'en fait, il dit pas que de la merde et que du coup, on se dit ah ouais, il est intelligent, donc on lui donne une place. Mais finalement, on l'écoute pas et puis finalement, on se dit donc on le vire et finalement, on
remet. Quoi, tu vois, il lui dit ok, vous pouvez revenir à votre place et c'est tout. Point barre. Alors qu'il a quand même sauvé la vie du vaisseau.
J'étais assez surpris ça et je me demande si c'est pas dû à la traduction parce que ça m'a choqué de voir que Picard s'excuse pas alors qu'il l'a viré, il lui a dit ferme-la deux fois d'affilée.
Il a quand même sauvé le pont.
J'étais assez surpris.
Oui, il faudrait regarder la traduction.
Je me souviens plus. Donc l'interprète de Wesley Crusher, Will Wheaton, c'est toi qui regardes Big Bang Theory, tu vois qui est Will Wheaton,
bien sûr.
Voilà, le barbu. Et c'est rigolo.
Ah oui.
Non.
Non, là j'ai pas compris.
dans Big Bang Theory.
Oui.
Je sais plus comment il s'appelle. Je suis désolé, je regarde pas trop. Sheldon.
Oui.
Sheldon, son ennemi juré, c'est Will Wheaton.
Oui.
Et qui joue son propre personnage, qui joue lui-même.
Oui.
Je sais pas comment dire. En fait,
je comprends pas. Il y avait pas Will Wheaton dans la série, là.
Non, mais l'acteur. L'acteur
de
Wesley Crusher, ben c'est normal, il avait 12 ans.
Ah, c'est le gosse.
Voilà, il s'appelle
l'acteur. L'enfant Wesley, c'est Will
Wheaton. Wesley Crusher est joué par Will Wheaton.
Oh.
Et dans Big Bang Theory, Will Wheaton joue Will Wheaton.
Oui, d'accord.
j'ai réussi.
Ça y est, j'ai compris.
On peut tromper une fois 1000 personnes.
Oh là là. Ah oui, d'accord.
Et voilà.
Ah, c'est mignon.
Voilà.
Ah, mais disons, ça fait longtemps qu'il est dans le cinéma, lui.
Ouais, mais il a pas fait grand chose.
Enfin, c'est Will Wheaton, quoi.
Ouais, non, mais.
Alors, c'est marrant parce que Big Bang Theory, c'est pareil, je regardais absolument pas, et c'est un petit peu grâce à toi et mon ex aussi. Ça va dans le même truc que. C'est le genre de série que j'ai regardé parce que vous aimiez et les gens autour de moi aimaient, et en fait, c'est une super série, quoi. Moi, j'aime beaucoup.
Je déteste cette série. Au tout début que je l'ai découvert, je me suis dit waouh, c'est super cool.
Je me souviens de ça, c'est pour ça que je l'ai regardé. En fait, tu l'aimes plus.
Très rapidement, très rapidement, je me suis rendu compte que. Enfin, c'est peut-être une impression de ma part, mais. En fait, il balance plein de références, mais gratuitement. C'est une série. C'est pas une série geek, c'est une série qui voudrait être geek. Tu vois la nuance. Ils n'arrêtent pas de faire des références à Star Trek, ils n'arrêtent pas de faire des références à Babylon 5. Mais c'est gratuit et il n'y a pas de profondeur, je trouve.
Ah,
et
c'est super. C'est,
et franchement, je préfère regarder Friends à Big Bang Theory. Quoi.
Ah ouais
Clairement.
Quand même.
Bref.
Friends
s'assume totalement, alors que Big Bang Theory ne s'assume pas du tout.
Moi, je pense que c'est fait exprès de ne pas aller dans le profond là, de leur truc, parce que sinon, ça ennuierait les gens.
Ben
la plupart
des
gens, ils regardent. C'est de l'esbrouf, c'est du.
Ouais, mais c'est du. Tu sais, je trouve que c'est du. Tu te moques de ton public.
Non, je pense que c'est pour se moquer des geeks et tout. Voilà.
Mais voilà, je trouve ça nul.
Oui, ouais. Enfin, j'ai l'esprit de la série, mais après, voilà.
Moi, elle me gave cette série. Après, là, et il y a plein de monde qui arrête pas de me dire, oh, t'as vu, ils font une référence à Star Trek. Ouais, mais c'est pas bien. C'est pas...
Ouais.
Enfin, ça m'énerve.
Mais c'est des petites références. C'est pas juste parce qu'il est à fond sur l'acteur ou parce que le film vient de sortir. Ou, tu sais, c'est juste des petits trucs comme ça. Il n'y a pas de profondeur sur Star Trek. Et moi, quand Sheldon montre là, dans l'épisode où c'est qu'il est à fond sur Star Trek et qu'il reçoit le grand... Monsieur Spock en carton là pour mettre chez lui, et c'est le mec de Heroes, c'est pas Zachary le vrai Quinto. Tu vois, et ça prouve bien que si c'était un vrai fan de Star Trek comme toi tu l'es, ben, ça serait pas celui-là qu'il aurait choisi pour mettre chez lui dans son salon peut-être. Ça serait le tout premier comme là dans les Nimoy. années 80 quoi, ouais. Tu vois.
D'accord.
Je sais pas, je suppose en tant que vous êtes fan, enfin toi t'es fan.
Non, mais après moi je suis un des rares à pas détester les nouveaux films, mais oui probablement.
Il faut avoir envie d'avoir Star Trek Spock dans son salon.
Ouais, moi ça me dérangerait pas.
Ouais, je sais. Peut-être à Noël, t'inquiète.
Voilà, grandeur réelle. Nimoy était très grand, il fait 1,90 m. Non, j'aurais honte, hein. Je serais trop petit.
En tout cas, c'était sympa.
Bah écoute, ouais, je suis assez content que ça t'ait plu.
Ouais.
Voilà, bon...
On remet ça quand tu veux.
Ouais, voilà, mais de toute façon, toi, de ton côté, si t'as envie de regarder, tu regardes, évidemment. Ouais. Et puis, oui, tu es la bienvenue dans les micros de Star Trek pour les nuls, quand tu veux.
En tout cas, c'est sympa, merci beaucoup, et merci de m'avoir accepté, de m'avoir expliqué un peu.
Après, je suis pas...
Non, mais ça fait plaisir, c'était un bon moment.
Ouais, et puis c'était chouette, passer un petit moment en famille.
Voilà.
De votre côté, auditeur, auditrice... Qu'avez-vous pensé, bon, déjà de ces épisodes-là, Where No One Has Gone Before et Data Lore, et qu'avez-vous pensé de ce concept d'émission? Est-ce que vous avez envie de réagir pour ça? N'hésitez pas, vous avez Facebook, vous avez Twitter, vous avez Instagram pour nous dire tout ceci. Vous avez les forums, communauté francophone de Star Trek. Et...
Est-ce que le fait de faire entrer une grosse nulle dans votre bulle, ça vous dérange ou pas?
Non, au contraire. Les gens apprécient beaucoup ce concept. Parce que
merci.
On essaye de vaincre cette image-là du gros nerd pourri de Star Trek. En France, en fait, il y a un gros souci avec Star Trek, c'est que les gens pensent que c'est de la merde. Alors que dès que quelqu'un regarde, il se dit « Putain, c'est génial !» Et...
C'est ce que je pensais, parce que c'est tellement vieux qu'on a l'impression qu'on a... Enfin, on a cet a priori. C'est tellement vieux qu'on a cet a priori, comme... j'en reviens à ça, parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps, comme si je te disais, viens, on va regarder Wonder Woman. Bon, Batman, on va aller le voir, mais Wonder Woman, bon, c'est vieux, c'est passé, t'as pas envie, quoi, tu vois. Enfin, t'as moins envie. Mmh. Et Star Trek, c'est tellement vieux que, bon, c'est... Même si les autres sont vieux, c'est vrai que moi, je me suis dit, bon, ça va être chiant, ça va être lourd...
Bah, tu t'es quand même endormi, mais...
Je suis endormi sur le rhum, mais deux minutes, même pas une minute, j'ai fermé les yeux.
Oui, bah. Je te connais.
Mais c'était super, j'ai passé un super moment, merci beaucoup.
Ok, je sais plus, je voulais rebondir, mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Dans deux semaines, c'est l'émission sur le 5e film, Star Trek Final Frontier, l'ultime frontière.
Ah,
où est-ce que c'est donc qu'ils vont aller? On va rencontrer qui? C'est quoi la dernière frontière? Est-ce qu'on va rencontrer Dieu? On ne sait pas.
Oh.
Allez, on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, un bon appétit si vous êtes à table. Je vois pas l'intérêt de nous écouter. Non mais on nous écoute pas. Oui, mais tu sais, on nous écoute quand on veut. Normalement, c'est dans les transports.
Ah oui, c'est vrai.
Avant d'aller au boulot ou en rentrant du boulot.
Alors, bonne route.
Attention, un chevreuil.
Et on se revoit dans le futur. La route est longue. Vous allez passer 88 miles à l'heure.
Alors ça, c'est très drôle parce que tu sais que l'émission qu'on vient d'enregistrer, il y a deux jours, on vient d'enregistrer une émission. Et justement, il y a plein de références à Retour vers le futur.
Ouais.
C'est très rigolo. Voilà. Tu nous fais des liens entre les émissions. Merci beaucoup.
Je suis trop bonne, je suis faite pour ça.
Allez. Ah non, si, je voulais dire un truc. Ah, pardon, dernière chose, ça va durer 3 minutes. En plus, tu vas pleurer. Ça t'a pas fait bizarre de retourner dans les années 80?
Non, pas tellement. Non, ça va.
T'as pas trop pensé à Beverly Hills? Désolée, si. Luc Perry, si tu nous entends, désolée.
Voilà, je suis une très très grande fan de par mon vieil âge de Luc Perry et c'est trop dur pour moi là.
Qu'est-ce qui était le mieux?
Stop. Arrêtez, j'en peux plus.
Qu'est-ce qui était le mieux, Beverly Hills ou Hartley?
Hartley Caravif, ah, c'était Bolton. C'était
avec le mec là qui avait un anneau bleu dans, dans l'arcade.
Bolton. C'était le mieux, c'était Beverly Hills quand même. Ouais, c'était Beverly Hills.
C'était mieux écrit, non?
Ouais, c'était les premiers, quoi. Donc, si tu veux, on s'est vachement accroché aux histoires et aux personnages, quoi. Après, Hartley, bien sûr, il y a eu quelque chose avec Anita, avec les personnages principaux. Où c'est que... mais comme le premier était Beverly Hills, ça a fait un tabac, quoi. Ça a été un gros carton. Puis, ça a été long. Hartley, il n'y a pas eu beaucoup de saisons. Beverly Hills, il y a eu beaucoup de saisons, quoi. Et puis, bon, voilà, quoi, tu suis les personnages. Bolton, Hartley Caravif, ça a été vite, vite plié, quand même. C'est dommage. C'était plus dans le... Enfin, c'était plus, plus moderne, quoi. Plus... Les personnages étaient plus hardcore, tu vois. C'était le skate, la défense,
ouais,
le truc,
je
le machin.
Sais que quand je, quand je regardais ça, c'était sur KD2A.
Ouais.
Ou TD2A, je sais plus.
Je sais plus.
Et j'avais envie d'avoir un piercing, mais j'étais trop petit, j'avais 7 ans.
Piercing à l'arcade, ouais. Je me rappelle plus comment il s'appelait, Bolton, c'était celui qui faisait du roller, là, qui était complètement déraillé. Et après, il y avait Anita et son mec trop beau, là. Je me rappelle plus comment il s'appelait, tandis que Beverly Hills, je peux tous te les dire, je les ai tous vus, je les connais tous. J'ai eu la larme à l'œil pour Dylan. Et voilà, quoi. Non, non, okay. C'est, je pense que tous ceux de ma génération, on serait tous d'accord pour dire que Beverly Hills, c'est quand même la référence, quoi.
C'était mieux que Hélène et les garçons.
Ah non.
Allez, c'est un autre sujet. Allez, on va vous souhaiter.
Hélène, je m'appelle Hélène, quoi. Non, c'est kiff-kiff.
Kiff-kiff.
C'est américain-français, c'est kiff-kiff. Là, bon. C'est vachement mieux Beverly Hills parce que les Américains sont très doués sur les ils étaient à cette époque-là déjà très doués sur les mises en scène, les acteurs étaient bons, ils avaient de la thune, donc les studios étaient bons et tout. Et les garçons, excuse-moi, c'était un garage et trois péloïs avec une guitare, une batterie, et voilà, pas, terminé, quoi. Semblant. Et aujourd'hui, ils s'accrochent, mais ça marche pas, quoi.
Et puis.
Beverly Hills, ils ont tout coupé, terminé.
C'est vrai que ça continue, Hélène et les garçons.
Ouais. Oui, mais
le cœur,
il y a eu les vacances de l'amour, il y a eu les mystères de l'amour, il y a eu les. Je sais pas quoi de l'amour, et là, j'en suis plus où. Oui, les mystères de l'amour, je crois. Mais il y en a eu des beaucoup. Ils ont changé d'endroit.
Moi, je trouve ça génial.
Et voilà, quoi, ils ont.
Que ça existe aussi longtemps. Ouais. Enfin, bon. Allez, on va rendre l'antenne, comme on disait il y a 20 ans, quand la radio existait encore. Non, je déconne. Oh, le gros troll. Allez, bonne journée à toutes et à tous. À bientôt.
Merci.
Chauffez les moteurs. Préparez la distorsion. Chargez les déflecteurs. Star Trek. Pour les nuits. En avant.
Ça va, t'es prête?
On peut l'effacer, si c'est nous.
Capla.
T'as dit capla? T'es un fan de capla?